En effet, on continue notre série sur le livre de l'Ecclésiaste et on est arrivé, on s'est arrêté la semaine dernière au chapitre 1, verset 11 et on va poursuivre notre lecture d'abord jusqu'au chapitre 2, verset 11 et puis on poursuivra un peu plus tard. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 12. L'Ecclésiaste, moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dû du rire insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je bâtis des maisons, je plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce, je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédai des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs, des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Voilà, jusqu'ici, c'est d'abord la parole de Dieu. L'Ecclésiaste, voilà un personnage haut en couleur, un sage, rempli de connaissances, de sciences, rempli aussi d'intelligence, de sagesse. Et il nous fait part de son expérience. Cet été, je vous fais part de la mienne, cet été, avec Anne-Sophie, on est parti avec nos trois filles, on est allé en Sardaigne. Dans les coins à visiter en Sardaigne, il y a la Costa Esmeralda et notamment les villes de Porto Cervo et de Porto Rotondo. C'est un coin réputé avec beaucoup de yachts qui viennent se montrer. Et à Porto Cervo, vous ne trouverez pas de Lidl, ce qui nous a particulièrement manqué. Mais vous pourrez faire vos courses chez Cartier, chez Louis Vuitton, chez Harrods ou Gucci. Vous aurez du mal à trouver une Dacia, mais vous pourrez facilement voir les dernières Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Vous pourrez y croiser quelques célébrités du foot, du cinéma et autres princes saoudiens ou qataris. Puis vous observerez au loin leur yacht. Moi, dans une ville comme celle-là, je suis toujours un peu mal à l'aise. D'abord parce que les prix ne sont généralement pas affichés dans les magasins, sauf les espadrilles à 500 euros, et que j'ai toujours peur que mes filles me demandent de leur acheter une glace, qui va nécessairement me rester sur l'estomac. mais plus sérieusement, aussi parce que je vois bien que mon cœur aimerait bien se promener sur un yacht, s'arrêter dans une crique aux eaux turquoises, faire un tour de jet ski. J'aimerais bien aussi faire quelques emplettes chez Gucci avant d'aller de m'installer dans un restaurant face à la mer et puis là, commander les délices sans que mes yeux aillent systématiquement voir au bout de la ligne à droite. Et je sais pourtant que le bonheur n'est pas dans ces choses. Je sais qu'on ne se suicide pas moins sur les yachts que dans les campings. Il y a encore quelque chose qui me déplaît quand je visite ces villes. C'est que mon cœur semble maintenant insatisfait. Alors que l'instant juste avant, j'étais dans la joie, satisfait de mon sort. Il y a quelque chose qui, soudainement, comme me manque. Et pourtant, je connais beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. Et donc, l'expérience de l'Ecclésiaste, il l'a poussée à l'extrême. Et c'est ce qu'on voit dans ce premier chapitre. Et il dit, j'ai tout essayé. J'ai essayé les plaisirs plus qu'un autre. On a dans notre cœur une quête du bonheur que l'on tente de combler par des plaisirs ou avec la sagesse. L'Ecclésiaste, il nous fait un peu la liste de tout ce qu'il a essayé dans sa recherche du plaisir et du sens de la vie. Regardez ce qu'il dit au chapitre 1, verset 16, je relis. « J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. » Champion du monde de la sagesse. Et puis au chapitre 2, verset 9, il dit « Je deviens grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. » Champion du monde, toute catégorie. Il a tout essayé. Au verset 3, il dit qu'il a essayé le vin. Le vin, les meilleurs crus. Et il s'en est délecté. Il s'est pas saoulé, vous savez, à vomir, etc. Non, enfin, peut-être vous savez pas, mais j'espère. Mais il a réussi à maîtriser tout ça. Il a eu le bon côté du vin. Si le vin, ça vous parle pas plus que ça, en fait, le vin ici est plutôt le symbole de tout ce qui est agréable. C'est-à-dire, il s'est offert ce qu'il y a de meilleur, les meilleurs produits. Il s'est offert les meilleurs vêtements, la meilleure qualité de vie, la bonne provenance des produits, et toujours avec sagesse pour ne jamais rien regretter. C'est un homme doué de sens délicat, qui a pu jouir de tout ce qu'il y a de plus exquis. Au verset 4, il dit qu'il s'est pas arrêté à ça, à juste profiter d'une vie agréable. Non, il a aussi entrepris de grandes choses, des grands ouvrages, dit-il. Il possède aussi à un haut degré le goût du beau, du grand. Et il s'est entouré de tout ce que la nature et les arts offrent de plus ravissant. Des maisons, des vignes, des jardins, des vergers, des arbres de toute espèce, des étangs pour arroser sa forêt. Au verset 8, il dit qu'il a eu de l'argent et de l'or qui lui ont procuré la possibilité de s'acheter des serviteurs et des servantes, etc. Vous savez, en regardant ces yachts au loin, avoir un yacht de 70 mètres, si vous n'avez pas de servante, si vous n'avez pas de serviteur, c'est vraiment la galère. Vous êtes tout le temps à bosser comme un... Non, là, lui, il avait tout ce qu'il fallait, le personnel en grand nombre. Des troupeaux, des bœufs, de brebis, plus que tous ses prédécesseurs. Il était, au fond, quelque part comme un architecte, un décorateur, un paysagiste, un horticulteur. Il savait agencer tout ça d'une manière harmonieuse. Et puis, il s'est procuré, dit-il au verset 8, les richesses des rois et des provinces, c'est-à-dire tout le raffinement, les choses rares et précieuses que seuls les rois ou les personnes très fortunées peuvent se procurer et qui proviennent chacun de contrées spéciales, exotiques, etc. J'ai vu un reportage en Asie, une chose qui est extrêmement prisée, ce sont les nids d'hirondelles. C'est pas les mêmes hirondelles que chez nous. Les hirondelles en Asie, elles font leur nid avec leur propre salive. Et ensuite, des chasseurs de nids d'hirondelles viennent récupérer ça au péril de leur vie. Et alors, c'est très léger. Un kilo, ça se vend à Hong Kong entre 3 000 et 5 000 dollars. Et les gens aiment ça, la bave d'oiseaux. Mettre ça dans leur soupe et ça leur donne un teint, voilà. Un peu, voilà, le genre de choses que les rois peuvent se procurer. Et puis il dit aussi au verset 8 qu'il a eu les arts, il était versé dans l'art. Il avait des chanteurs et des chanteuses, ce qui fait le plaisir aussi des hommes, des femmes en grand nombre, dit-il. Verset 9, il dit « J'ai été grand, très grand, plus grand que tous ceux qui m'ont précédé. Il a déployé au fond une activité intelligente. Il a conquis l'admiration des peuples les plus éloignés. En un mot, il a réalisé dans sa vie tout ce qui peut paraître être l'idéal du bonheur. Il est allé aussi loin que possible. Étonnamment, tout le luxe dans lequel a vécu l'Ecclésiaste, c'est ce que la classe moyenne occidentale revendique aujourd'hui. Pour le divertissement, lui, il avait des chanteurs, des danseurs privés, mais nous avons le Zénith et iTunes, le streaming en ligne, les téléviseurs, les tablettes, les smartphones. Nous avons aussi le Puy du Fou, nous. Le Louvre. Et puis, j'ai aussi noté les musées d'art moderne. Parce qu'il parle aussi qu'il a laissé libre cours à la folie. Vous voyez, donc là, c'est pour laisser libre cours à la folie, il y a les musées d'art moderne. Nous jouissons, pour beaucoup, d'une qualité de vie qui aurait été inimaginable, même pour la plupart des personnes riches, il y a 100 ou 200 ans. Mais le bonheur, le niveau de satisfaction des cœurs, n'a pas augmenté pour autant. En fait, les études montrent que la dépression clinique a augmenté d'une manière proportionnelle avec la prospérité croissante. Environ 10 fois plus de cas diagnostiqués qu'il y a 50 ans. Nous faisons comme l'Ecclésiaste l'expérience de la déception, en fait. L'incapacité qu'ont les plaisirs à remplir nos vies, nos cœurs. Tout est vanité. Ça va jamais remplir mon cœur. Le cœur naturel de l'homme, il dit jamais assez. Et c'est ça qui est terrible. On aimerait toujours avoir plus. Plus de confort, plus de place, plus de vacances, plus de sécurité financière, plus de luxe. On est comme un enfant insatisfait qui veut un ballon. On lui offre un ballon. Il est là avec son ballon et il croise un autre enfant avec un autre ballon. Avec une plus longue ficelle. Il veut celui-là. Et l'autre, il est une autre couleur. Il veut celui-là. Et puis une autre forme. Et c'est celui-là que je veux. Puis il croise encore un autre qui en a deux dans chaque main. C'est ça que je veux. Et on est tout le temps comme ça dans cette poursuite. Nous croyons que la clé du bonheur réside dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés, quel qu'il soit, intégrer telle équipe sportive, intégrer telle école réputée, telle société, avoir un D majuscule avec un petit R, un point, et puis son nom derrière, avoir un salaire annuel à 6 chiffres, voilà l'objectif. Alors, nous allons encore travailler, acheter, rechercher le plaisir, ou quoi que ce soit d'autre. Nous allons continuer à souffler de plus en plus d'air dans notre ballon. Mais la satisfaction, elle n'est pas vraiment là longtemps. L'instant où on a fini de gonfler, il dit, ah, ça c'est bien comme ça. Et hop, vous regardez, c'est plus gros là-bas et là-bas. Le pasteur David Gibson écrit dans un commentaire sur l'Ecclésiaste que la mort dans l'Ecclésiaste est comme l'épingle qui vient éclater chaque ballon que nous gonflons dans notre quête du bonheur. Pensez au travail, pensez à l'argent, au plaisir comme à des ballons. Nous les remplissons de notre temps. Nous les remplissons de notre peine, de notre énergie, on y met notre espoir. Et pendant un moment, nous les voyons se développer. À l'extérieur, ils peuvent prendre une belle envergure. Mais à l'intérieur, c'est que de la vapeur. C'est que du vent. La mort, l'épingle, va venir révéler la vérité. C'est vide. Que du vent. Et l'Ecclésiaste, lui, il veut nous faire l'économie de cette déception. Alors il a poussé l'expérience à son paroxysme. Il dit au verset 10, je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie, car mon cœur prenait quand même plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Donc il dit pas que le travail c'est que de la peine. Il y a de la peine, et puis parfois il y a un peu de satisfaction, comme moi quand je viens de repeindre toute une chambre, et, oh là, c'est joli ça. Ou quand je récolte quelques tomates, avec beaucoup de peine. Alors là, je suis content, on va la partager en 8. Puis il fait le constat, verset 11, tout est vanité et poursuite du vent. Au fond, l'Ecclésiaste, il est en train de nous dire qu'il a gonflé un ballon plus gros et plus beau que le nôtre. Plus gros et plus gros, plus beau que celui que nous pourrions jamais obtenir. Et qu'il soit gros ou petit, la mort fera éclater notre ballon. La vie royale de l'Ecclésiaste ne l'a pas vraiment rendu heureux. Toutes les joies et les plaisirs de ce monde ne peuvent pas compenser la difficulté de la vie. Alors, il s'est tourné vers la sagesse. Et c'est ce qu'il dit à partir du verset 12, et je vous propose de faire la lecture. « Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse, et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi que l'on a déjà fait ? Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage ? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi ? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé ? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un très grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil. Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il est en train de dire, oh, la sagesse, c'est mieux d'être sage que d'être insensé. Mais la sagesse, même si la sagesse est bonne, le sage meurt aussi bien que l'insensé, dans les versets 12 à 15. Certainement, il y a un avantage à être sage. Tout le livre des proverbes nous rappelle ça. nous rappelle que la sagesse nous fait éviter les précipices de la vie, beaucoup de souffrances, mais elle ne solutionne pas tout. Et puis avec beaucoup de connaissances, on a aussi beaucoup de soucis. Et puis la sagesse n'abolit pas la mort. Les sages aussi meurent, aussi bien que les insensés. La deuxième chose qui le frappe là comme vanité, c'est qu'il dit « la mémoire même du sage périt comme celle des plus insignifiants des hommes ». Dans les versets 16 et 17, on pourrait se dire « Ah, mais si je vais marquer l'histoire, je vais marquer la... » La réalité, c'est que l'instant après notre mort, ou les jours qui ont suivi, on nous a oubliés, que l'on soit sage ou que l'on soit insensé. Et s'il y a des exceptions, il y a aussi des exceptions. Il y a des exceptions autant pour les sages que pour les insensés. On se souvient aussi des criminels que des héros de guerre, ou aussi peu. Alors non seulement le sage meurt sans, comme l'insensé, non seulement sa mémoire périt comme celle des plus insignifiants des hommes, mais en plus il dit « ce qu'il a exécuté avec intelligence et peine passe aux mains de personnes qui n'ont pas travaillé » et qui vont peut-être juste dissiper le bien. On voit, on a eu pas mal de récits comme ça dans les magazines de familles extrêmement riches qui se sont mais divisées, battues, ils sont devant les tribunaux entre frères et sœurs pour l'héritage. Vanité, poursuite du vent. En 2018, la fille d'Elvis Presley a attaqué son manager en justice, l'accusant d'avoir dilapidé sa fortune avec de mauvais investissements. Il faut savoir que lui, il accuse Lisa Marie Presley d'avoir tout dépensé elle-même. Elvis, il avait qu'une seule fille, Lisa Marie Presley. Cette fille a épousé Michael Jackson en 1994. Elle est donc à la fois la fille du King et l'ex-femme du King de la pop. Elle s'est pas mariée pour l'argent avec Michael Jackson. Non, en un an avant son mariage, en 93, elle avait touché son héritage, 100 millions de dollars. Mais dans un document de justice qui a été rendu public en 2018, elle affirme qu'il ne lui reste que 14 000 dollars disponibles et qu'elle a aussi 16 millions de dollars de dettes. J'imagine le King dans sa tombe, là. Se retourner. Vanité. Vanité. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? La recherche des plaisirs est vanité et poursuite du vent. La recherche de la sagesse est aussi vanité et poursuite du vent, verset 17. Les plaisirs ne peuvent pas nous satisfaire. La vie sage, le travail ne peut pas nous satisfaire. Alors faut-il cesser de prendre du plaisir, de faire des projets, de se divertir ? Faut-il cesser de travailler, de prendre des vacances ? Faut-il vivre n'importe comment, se foutre de tout, ou bien sombrer dans le fatalisme? Il y a un sondage qui a été fait auprès des étudiants en fin de lycée, en classe terminale, et il y avait une des questions qui disait « Qu'est-ce que vous avez appris pendant vos années lycée ?» Et l'un des étudiants a répondu « La vie est dure et je dois m'y habituer. » Est-ce que c'est ça la conclusion ? Est-ce que c'est ça notre espérance ? Il n'y a pas de sens ? La vie est dure ? Je vais galérer toute ma vie et à la fin il ne me reste rien. Et ma mémoire est oubliée et mes descendants se déchirent sur le bout de gras. C'est pas exactement la conclusion qu'il donne dans ce passage. Et je vous invite à lire les versets 24 à 26 maintenant. Il dit, « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi ? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. » C'est bizarre. Ici, il semble dire à présent le contraire. Pendant tout le début du chapitre, il nous a dit « manger, boire, travailler, tout ça, c'est de la vanité ». Et lui, il dit à la fin maintenant « il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger, à boire, à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail ». Et en fait, là, même s'il ne répond pas encore complètement au sens de la vie, il nous laisse un peu de suspense par rapport aux autres chapitres. Néanmoins, ici, il fait mention de Dieu deux fois dans ces versets, alors qu'il n'a absolument pas parlé de Dieu depuis le commencement de notre passage. Il parle de Dieu, il introduit Dieu ici dans sa réflexion. Jusque-là, il a évoqué la vanité, la poursuite du vent, de tout ce qui se fait sous le soleil. L'expression « sous le soleil » revient 5 fois dans les 6 versets qui précèdent 17 à 22. Mais en mentionnant Dieu ici, il nous fait lever les yeux au-dessus du soleil. Il introduit l'idée qu'il va marteler jusqu'à la fin du livre « sans Dieu, il n'y a pas de réponse. Sans Dieu, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. » Mais avec Dieu, boire, manger, travailler ne sont pas des activités futiles, mais elles sont un cadeau de Dieu. Quand on reconnaît que c'est Dieu qui donne la vie, qu'il est notre créateur, que nous dépendons de lui, que c'est lui qui nous a donné, qui nous donne toutes choses pour que nous en jouissions, eh bien la vie prend alors du sens. Nous devrions apprendre à en jouir avec reconnaissance. Il y a deux tendances avec le plaisir. Il y a soit l'ascétisme, soit l'hédonisme. L'ascète, lui, il méprise toute forme de plaisir. Et du coup, eh bien, il méprise Dieu qui nous donne ces choses. Vous voyez, vous ne pouvez pas mépriser le plaisir et les bonnes choses de la vie sans mépriser celui qui les donne. L'ascète fait fausse route. Et puis il y a l'hédoniste, de l'autre côté. L'hédoniste, lui, il en a fait les plaisirs, il en a fait le but de sa vie. Et dans ce cas, lui aussi méprise Dieu. Et puis, il court toujours, mais sans jamais attraper le vent. Alors, quel est le but principal de la vie de l'homme ? Le catéchisme de Westminster répond à cette question. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Dieu veut que l'on le connaisse et que l'on jouisse de la vie qu'il nous donne. Il y a donc une troisième voie qui nous est offerte. C'est une voie qui est centrée sur Dieu. Jouir de la vie avec reconnaissance envers Dieu, puisque c'est lui qui nous donne, au verset 24, il dit, il nous donne le manger, le boire, et le travail, et la jouissance de notre travail. Et il dit aussi, au verset 26, qu'il nous donne la sagesse, la science et la joie. Tout cela nous vient de lui. Les implications pour nous, eh bien, nous pouvons jouir des joies que Dieu nous donne avec reconnaissance. Dans quelques minutes, vous allez passer à table. Pensez à ça. Tout ce qui sera devant votre table, c'est Dieu qui vous le donne. Et remerciez-le et jouissez de ça. Réjouissez-vous de cela. La deuxième implication, jouissez des joies que Dieu nous donne en communion avec les autres. Peut-être vous avez des invités. Profitez de vos familles, profitez de vos amis, profitez pour partager tout ce que Dieu vous donne, non seulement dans les biens matériels, mais aussi dans ce que Dieu a accompli dans vos vies, dans vos cœurs. Ce que vous avez pu connaître de lui, partagez-le. Vous ne pouvez pas jouir de la vie tout seul dans votre coin, indépendamment de tous ceux qui sont autour de vous. Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Et ça, c'est une implication importante pour nous. Et puis enfin, on doit jouir des joies que Dieu nous donne sagement. C'est-à-dire d'une façon qui est respectueuse de la création et de la créature. Et du Créateur, bien entendu. Et c'est ça qui nous donne de la sagesse pour vivre ici-bas. Donc, quand j'ai le privilège de partir en vacances avec mon épouse et mes trois filles, en Sardaigne, plutôt que de nourrir de l'insatisfaction en raison du jet ski et des moyens financiers et du paddle que je n'ai pas, je devrais jouir de toutes les joies que Dieu me donne avec reconnaissance, en profitant de ce temps de repos, de ce temps d'activité sportive, des baignades, des pizzas et des pâtes, en communion avec ma femme, mes filles, en communion avec les habitants de l'île, en communion avec les autres touristes comme moi. Tout ça d'une manière sage et respectueuse pour ne pas avoir de regrets. Puisque tout cela est vécu devant Dieu, qui amènera toute œuvre en jugement, comme le laisse penser le verset 26. Il dit, voyez-vous, il donne aux insensés d'accumuler pour les sages. Il est en train de dire, il y a un jugement au fond. Nos vies, on ne peut pas les vivre n'importe comment. Un jour ou l'autre, Dieu nous appelle devant sa face à répondre de nos actes. Et du coup, cette perspective nous pousse à la sagesse. Mais vous pouvez mettre cela en parallèle avec votre travail. Vivez de la même manière pour votre travail, avec reconnaissance. En ce moment, avoir un travail, c'est précieux. Pour vos études, pour votre activité, exprimez votre reconnaissance à Dieu. Faites votre travail, vos études, vos activités en communion avec les autres, en étant aussi respectueux de la création et du Créateur. Je termine avec cette pensée que si nous centrons nos vies sur Dieu, nous nous préparons aussi au jour où l'épingle viendra percer, crever notre ballon. Qu'en sera-t-il pour vous ? Serez-vous avec lui ? Jésus, lui, il est venu pour pardonner nos fautes. Il est venu pour nous préparer à vivre avec lui. En fait, lui seul peut satisfaire nos cœurs. Il s'agit de le mettre dans le ballon. Il faut que Dieu remplisse notre ballon. Si Dieu remplit notre ballon au jour où la mort viendra crever, Dieu restera. Rien ne manque à qui Dieu reste, a dit Augustin. Et nos vies seront pour toujours avec lui. C'est aujourd'hui qu'on peut le faire. C'est aujourd'hui qu'on peut introduire Dieu dans nos vies. Simplement en l'invitant à nous secourir, à prendre possession de nos cœurs, de nos vies. On sait que nos vies sont creuses sans lui. Il y a un vide toujours plus grand. On a besoin de lui. Si vous n'avez pas encore invité Christ dans votre vie, si vous n'avez pas compris qu'il était mort pour vous, qu'il vous aime, qu'il veut vous réconcilier avec lui, par Jésus-Christ, demandez-lui de vous sauver. Demandez-lui de se révéler à votre cœur. Il le fera, il l'a fait pour moi et pour tous ses enfants.